SBS Radio.
Selon le gouvernement fédéral australien, les réfugiés australiens en Syrie ne courent pas de risques majeurs. L'équipe de France éliminée de la Coupe du monde féminine. Et effet Donald Trump au sommet du G20, les participants ont du mal à s'accorder sur une déclaration conjointe. Le gouvernement fédéral dit ne pas être au courant de menaces spécifiques pesant contre des ressortissants australiens vivant dans des conditions précaires dans des camps de réfugiés en Syrie. Plusieurs enfants australiens ont été évacués de ces camps du nord de la Syrie cette semaine, provoquant des inquiétudes pour la cinquantaine d'autres ressortissants australiens vivant dans ces camps. Le gouvernement australien dit suivre la situation de très près en collaboration avec des partenaires humanitaires internationaux. Cependant, La ministre des Affaires étrangères et du Commerce souligne que les capacités d'offrir une assistance consulaire en Irak et en Syrie sont limitées. Et on reste en Syrie où des affrontements violents se poursuivent dans la région d'Idlib, et ce selon l'Observateur syrien des droits de l'homme. Selon cet observateur, plus d'une centaine de combattants auraient trouvé la mort ces derniers jours dans une offensive menée par l'armée syrienne et son allié russe. La nouveauté, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, c'est que l'offensive actuelle viserait également des positions tenues par l'armée turque. Un soldat turc aurait par ailleurs été tué déjà dans les affrontements. Et Ankara proteste. Explication Samir Boukhelifa pour RFI.
Ankara est catégorique. Des obus s'abattent régulièrement sur les positions de ses troupes en Syrie. Un responsable est désigné, le régime de Damas. Selon les autorités turques, l'armée de Bachar al-Assad a ouvert le feu à plusieurs reprises contre ses postes d'observation. La Turquie dispose de 12 positions militaires en territoire syrien. Le déploiement de l'armée turque à Idlib s'est fait dans le cadre du processus d'Astana, en accord avec la Syrie et son allié russe. L'objectif était la mise en place de zones de désescalade afin d'éviter un embrasement dans la région. Idlib est un point chaud. Après chaque nouvelle reconquête en Syrie, le régime de Bachar al-Assad a fait en sorte d'envoyer les combattants vaincus, rebelles ou djihadistes vers cette province du nord-ouest du pays. Problème, ces groupes d'insurgés vivent au milieu des civils. La moindre attaque contre eux fait des victimes parmi la population. Selon un militant de l'opposition syrienne contacté sur place, ces nouvelles offensives syriennes contre les positions turques pourraient être un message envoyé par Damas à Ankara. Il est temps de quitter la Syrie, l'objectif du régime, rétablir sa souveraineté sur son territoire.
Et des centaines de personnes se sont réunies hier devant la taverne Stonewall à New York pour commémorer le 50e anniversaire de la rébellion des Stonewall. C'est un événement qui a été catalyseur du mouvement LGBTIQ à travers le monde. Grégoire Portier de RFI était sur place.
Les homosexuels n'avaient pas la vie facile aux États-Unis dans les années 60. Minorité invisible, vivant cachée, harcelée par les autorités, leur cause était largement ignorée alors que les Afro-Américains ou les anti-guerres du Vietnam agitaient eux la société américaine. Mais en 1969, une explosion de violence après une énième descente de police dans un bar de New York, le Stonewall, va provoquer une prise de conscience. David Leung, 24 ans à l'époque, était venu passer la soirée dans le très libéral West Village.
Le village était un endroit où il était un peu plus facile de rencontrer des gens. C'est pour ça que j'étais là. Ça a été une surprise pour moi. D'abord d'être sur place ce soir-là, et puis que ça arrive comme ça, dans le West Village, et de la manière dont ça s'est déroulé. Moi, je pensais plutôt qu'on ferait avancer nos droits grâce à des négociations avec le maire.
Beaucoup évoquent la chaleur de cette nuit-là, le zèle des forces de l'ordre en pleine campagne électorale, les premiers projectiles qui électrisent la foule agglutinée. Ce soulèvement spontané était inattendu, mais le résultat est là. 50 ans plus tard, Stonewall est considéré comme un événement fondateur. Le bar et la petite place juste devant ont ainsi été classés monument national il y a 3 ans, et ce mois-ci, ils sont l'épicentre de la World Pride qui a coloré encore davantage le quartier aux couleurs de l'arc-en-ciel.
Et au sommet du G20 à Osaka, la Chine dit avoir fait un pas vers les États-Unis et espère que ces derniers feront un pas en sa direction. Cette déclaration est tombée à quelques heures d'une rencontre entre les dirigeants des deux pays en marge du sommet du G20 qui a lieu en ce moment à Osaka, au Japon. Une trêve dans la guerre commerciale que se livrent les deux pays empêcherait aux USA de frapper de nouveaux tarifs douaniers contre des biens chinois d'une valeur de plus de 300 milliards de dollars. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, M. Geng Shuang, espère que les deux parties parviendront à un accord.
The entire international community is paying great attention to this meeting and looking forward to China and the US to resolve differences in the economic and trade field through dialogue and consultation. We hope that the US can meet China halfway and work together with us to promote a positive result of the meeting. This is in the interest of both countries and also meets the common expectation of the international community.
Et toujours au G20 d'Osaka, on signale des difficultés pour les négociateurs de trouver un accord sur une déclaration finale depuis l'arrivée de Donald Trump sur la scène internationale. Il faut signaler aussi que la France tient à se faire entendre, surtout en ce qui concerne les acquis sur la protection de l'environnement. Écoutons l'envoyé spécial de RFI sur place, Mounia Daoudi.
C'est quasi un rituel depuis l'arrivée de Donald Trump. Les Sherpas, chargés de rédiger la déclaration finale du sommet du G20, savent que chaque mot, chaque virgule devra être âprement négocié. Une épreuve pour parvenir à un texte qui fasse consensus pour des pays aux intérêts très divergents. Ainsi, à Hambourg, en 2017, c'est le climat qui avait le plus divisé le club des 20, Donald Trump ayant choisi de se retirer de l'accord de Paris. Et sur cette question, il a fallu inventer la formule du 19+1 pour permettre aux États-Unis d'endosser in fine la déclaration finale. À Buenos Aires, en décembre dernier, c'est plutôt le rejet du protectionnisme qu'il a fallu défendre aux grandes dames de l'administration américaine. Et cette année, c'est de nouveau le climat qui est devenu un casse-tête pour les négociateurs. Soucieuse d'obtenir l'adhésion des États-Unis, la présidente japonaise aurait ainsi défendu un texte minimaliste, ne mentionnant pas réchauffement climatique et décarbonisation. Inacceptable pour de nombreux pays, dont la France, qui a ouvertement menacé de ne pas endosser une déclaration finale qui n'acterait pas l'irréversibilité de l'accord de Paris.
Et victorieuse contre l'équipe de France, grâce à un doublé de Rapinoe à la 5e à la 65e minute, les Américaines se sont qualifiées hier pour les demi-finales et ont éliminé l'équipe de France. Après un premier tour en forme de promenade, la sélection des USA a peiné mais dompté l'Espagne en 8e de finale 2-1. Et c'est sur ce même score que les champions du monde en titre l'ont emporté hier face à l'équipe de France en quart de finale. La suite, donc, un peu plus d'informations sur le match d'hier dans notre magazine des sports. Et en France toujours, la Cour de cassation a ouvert hier un nouvel arrêt pour l'alimentation et l'hydratation, maintenant en vie Vincent Lambert. Vincent Lambert, c'est ce patient tétraplégique qui est dans un état végétatif depuis 10 ans. Patrice Spinozzi, l'avocate de son épouse Rachel Lambert, et qui, elle, est favorable à l'arrêt des traitements, dit qu'il n'y a plus de voie de recours possible car il n'y a plus de juge à saisir. La voie est donc ouverte pour laisser mourir le patient. Écoutons Patrice Spinozzi au micro de nos confrères de RFI.
Il n'y a plus de voie de recours possible parce qu'il n'y a plus de juge à saisir. Tous les juges imaginables français et européens ont d'ores et déjà été saisis. Et donc, on ne peut pas inventer des juges quand ils n'existent pas. On peut faire preuve d'autant d'imagination que l'on veut. Nous sommes maintenant au bout de la route. Aujourd'hui, la décision qui est définitive, c'est celle de l'arrêt des soins. Elle a été décidée par le Conseil d'État, elle a été décidée par la Cour de cassation, elle a été décidée par la Cour européenne des droits de l'homme. Il n'y a plus de voie de recours utile, et ce, indifféremment de ce que les parents de Vincent Lambert pourront tenter de faire croire. Les traitements ont vocation à s'arrêter, en tout cas, ils peuvent s'arrêter dès à présent. C'est maintenant le choix de l'équipe médicale.
Et Quelques nouvelles en bref. L'épouse de l'avocat Wang Guangzhang a pu rencontrer hier son époux qui est à l'isolement depuis 4 ans. Ce défenseur des droits de l'homme a été reconnu coupable d'incitation à la subversion du pouvoir de l'État chinois en janvier dernier. Les courtes retrouvailles ont eu lieu donc dans sa prison de l'Est de la Chine à 600 km de Pékin. Et l'accord sur le nucléaire iranien n'est pas mort, mais pour combien de temps encore? Ben, sur fond de vives tensions entre Téhéran et Washington, une réunion a eu lieu hier à Vienne, en Autriche. Cette réunion était présente, l'Iran, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Russie et la Chine. Ce sont les pays restés dans l'accord après le départ des Américains il y a un peu plus d'un an. Et un coup d'œil météo à travers les principales villes australiennes. Perth, 17 degrés. Adélaïde, 14 degrés. Melbourne, 16 degrés. Hobart, 17. Canberra, 16. Wollongong, 19 degrés. Sydney, 21. Newcastle, 21 également. Brisbane, 23 degrés. Cairns, 25. Et Darwin, 32 degrés. Et sur les marchés financiers, un dollar australien vous achète aujourd'hui 70 centimes de dollars US et 62 centimes d'euros. Un rappel des titres à présent avant de passer au magazine des sports. Selon le gouvernement fédéral, les réfugiés australiens en Syrie ne courent pas de risques majeurs. Et l'équipe de France de football éliminée de la Coupe du Monde féminine. Et effet Donald Trump au sommet du G20, les participants ont du mal à s'accorder sur une déclaration conjointe.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.